Deuxième partie. L'appel d'Elantris. Chapitre 28. Le plus difficile, c'était de choisir où débuter sa lecture. Les rayonnages, si longs qu'on n'en voyait pas la fin dans la pénombre, contenaient des informations à l'infini. Raoden aurait parié que les indices dont il avait besoin se situaient là, dans cet océan de pages. Mais où les rechercher? La tâche s'annonçait décourageante. Ce fut Karata qui effectua la découverte cruciale. Elle localisa une étagère assez basse à l'opposé de l'entrée, où une série de 30 volumes couverts de poussière attendait. Ils constituaient un catalogue dont les nombres se rapportaient aux diverses rangées et colonnes de la bibliothèque. En s'y référant, le jeune homme n'eut aucune peine à dépister les ouvrages sur l'Aon d'Or. Il sélectionna le livre le plus simple qu'il put trouver et se mit au travail. Seuls Galadon, Karata et lui connaissaient l'existence de la bibliothèque. Et il avait décidé de ne rien changer à cet état de fait. Non seulement il redoutait une répétition de l'usage culinaire des volumes reliés, mais il sentait dans cet édifice un caractère sacré. Il ne s'agissait pas d'un lieu où laisser affluer des visiteurs qui déclasseraient les livres et briseraient le silence. Ils gardèrent aussi le secret sur le lac et ne donnèrent à Maresh et Saolin que la plus simple des explications. Le vif désir d'anéantissement que Raoden avait éprouvé sur sa rive lui en avait appris le danger. Cette étreinte mortelle, cet oubli revigorant, une part de lui-même les recherchait. Si les gens avaient su avec quelle facilité ils pouvaient échapper et de manière indolore à la souffrance, beaucoup auraient choisi cette voie sans hésiter. La cité se serait retrouvée dépeuplée en l'espace de quelques mois. Il aurait pu les laisser faire, bien sûr. Il n'avait pas le droit de priver les autres de la paix dernière. Mais le jeune homme jugeait prématuré de renoncer à essayer de relever Elantris. Durant les semaines précédant l'initiative de sa reine, il avait vu la cité maudite commencer à oublier sa peur et sa faim. Les Elantriens pouvaient dépasser leurs instincts. Une autre porte de sortie s'offrait à eux que la simple destruction. Pas pour lui, cependant. La souffrance grandissait de jour en jour, tirant sa force du dehors. Chaque assaut le rapprochait un peu plus de la soumission. Par chance, il avait les livres pour se distraire. Il les étudiait, fasciné, presque hypnotisé, et il finit par découvrir les explications simples qu'il cherchait depuis si longtemps. Les Aons étaient en somme des équations complexes dont les éléments agissaient les uns sur les autres. En allonger un trait avait un effet considérable. Deux de ces Aons pouvaient commencer identiques, et tels deux rochers qui dévalent une montagne sur des trajectoires parallèles, aboutir à un résultat totalement différent. Il suffisait de changer la longueur d'un trait. Les fondements théoriques de l'Aon d'Or lui apparaissaient. Le d'or correspondait à la description que Galadon en avait faite. Une énergie puissante qui se situait hors de portée des cinq sens et dont le seul désir était de s'échapper. Selon les livres, elle était contenue dans une sorte de réservoir sous pression, si bien que cette énergie, lorsqu'elle trouvait une issue viable, ne pouvait que l'emprunter. Mais de par sa nature, le d'or ne pouvait pénétrer dans le monde physique que par des portes de la forme et de la taille appropriées. Les Elantriens savaient les créer, les dessiner, et c'était ses dessins qui déterminaient quelle forme l'énergie prenait lorsqu'elle se manifestait ici. Si toutefois un seul des traits du dessin était mal proportionné, le d'or ne pouvait plus passer. Il restait coincé. Tel un carré qui aurait voulu se forcer un chemin par un trou rond. Certains des théoriciens qui décrivaient ce processus employaient des termes comme fréquence et longueur de pulsation. Raoden prenait à peine la mesure du génie scientifique que les volumes moisis de cette bibliothèque renfermaient. Toutefois, ses longues recherches se révélaient décevantes en ce qu'il n'avait pas pu découvrir pourquoi l'Aon d'Or avait cessé de fonctionner. Il devait se contenter de supposer que la nature du d'or s'était modifiée. Peut-être qu'il s'agissait d'un triangle au lieu d'un carré maintenant. Et Raoden avait beau dessiner des Aons carrés, l'énergie ne passait plus. Quant à ce qui avait pu provoquer la métamorphose soudaine du Dor, il n'en avait aucune idée non plus. Comment a-t-il fait pour rentrer, lui ? Arraché à ses réflexions, le prince leva les yeux. Galadon indiquait Yen qui survolait l'étagère supérieure d'un rayonnage et dont la lueur faisait naître des jeux d'ombre dans la salle. « Je l'ignore. »«
Je dois bien reconnaître que ton Séon me file la chair de poule, Sulé. »
Le jeune homme haussa les épaules. « Une fois qu'ils ont perdu la raison, ils font cet effet à tout le monde. »
« Oui, mais en règle générale, ils se tiennent à l'écart des gens. »
Le Dula suivit Yen des yeux avec un petit frisson. Le Séon, comme d'habitude, ne lui prêtait aucune attention. Mais il semblait préférer rester au voisinage de son ancien pupille.
« En tout cas, Shaolin te réclame. »
Raoden hocha la tête, ferma son livre, se leva de sa petite table. Il y en avait toute une rangée au fond de la salle et rejoignit son ami sur le seuil. Galadon adressa un dernier regard troublé au Séon avant de claquer la porte, laissant Yen dans la pénombre de la bibliothèque.
« Je ne sais pas, Shaolin, » dit le prince d'un ton hésitant.
« Messire, nous n'avons guère le choix. Nous avons trop de blessés. Vouloir résister aux sbires de Shaor aujourd'hui serait vain. Ces sauvages se contenteraient de nous rire au nez avant de nous écarter d'une bourrade. »
Raoden hocha la tête avec un soupir. Le vieux soldat avait raison. Il ne pourrait pas continuer de tenir les troupes de Shaor à l'écart de sa reine. Même si Shaolin était devenu plutôt habile comme gaucher, il ne restait pas assez de combattants pour protéger l'esplanade. Et il semblait que leurs adversaires gagnaient en férocité. Ils devaient sentir la nourriture sur l'esplanade et leur incapacité à l'atteindre ne faisait qu'attiser leur démence. Lorsque le jeune homme leur laissait de quoi manger, le subterfuge était de courte durée. Ils s'empiffraient, puis ils repartaient, encore plus enragés. Une seule obsession les tenaillait désormais, atteindre les charrettes de provisions sur l'esplanade.
« Si seulement on avait davantage de soldats » songea-t-il, pris de frustration.
Il avait perdu bon nombre de fidèles avec les distributions de nourriture, tandis que les rangs restaient fournis chez Shaor. Tant Galadon que lui avaient proposé de se joindre au détachement. Le vétéran au nez cassé refusait d'en entendre parler.
« Les chefs ne combattent pas. Vous êtes trop précieux. »
Il avait raison, et Raoden le savait. Le Dula et lui n'étaient pas soldats. Ils ne feraient qu'apporter du désordre dans une troupe bien entraînée. Le plan de Shaolin paraissait la moindre des mauvaises options qui s'offraient à eux.
« Entendu, » décida-t-il. « Allez-y. »« Bien, messire. »
L'autre le salua d'une brève inclinaison du buste.
« J'entame les préparatifs. Il ne reste que quelques minutes avant l'arrivée de la princesse. »
Le prince le congédia d'un signe de tête. Cette ultime tentative désespérée allait-elle fonctionner ? Les sbires de Shaor prenaient toujours le même chemin avant de se séparer pour essayer de gagner l'esplanade. Et Shaolin comptait leur tendre une embuscade. C'était risqué, mais c'était sans doute aussi leur unique chance. Les soldats de la nouvelle Elantris ne pouvaient plus continuer à se battre de la sorte.
« J'imagine qu'il faut y aller alors, » dit le prince.
Galadon hocha la tête. Alors qu'ils entamaient leur trajet vers l'esplanade, Raoden éprouva un accès de gêne à l'égard de la décision qu'il venait de prendre. Si Shaolin perdait la bataille, les fous passeraient. S'il la remportait, des douzaines d'élantriens dans les deux camps se retrouveraient morts ou réduits à l'impuissance, alors que le jeune homme aurait dû pouvoir les protéger. Dans un cas comme dans l'autre, j'aurais échoué.
Quelque chose clochait. Sa reine le sentait bien, mais elle ignorait d'où cela venait. Esprit semblait nerveux. Il badinait moins que d'ordinaire. La jeune femme ne pensait pas être en cause. Le motif était autre. Peut-être un souci lié à la fonction de dirigeant que l'élantrien s'avérait exercer. Elle aurait voulu l'interroger. Quand elle entama la routine du déchargement, l'inquiétude patente d'esprit la contamina. Chaque fois qu'il s'approchait pour recevoir un article de la charrette et qu'elle le regardait dans les yeux, il paraissait de plus en plus tendu. Mais elle ne put se résoudre à demander ce qui n'allait pas. Elle avait passé trop longtemps à feindre l'indifférence, à ignorer ses ouvertures amicales. Elle s'était enfermée dans un rôle, comme en Théode. Et comme en Théode, elle ne voyait aucune échappatoire. Par bonheur, il ne partageait pas ses inhibitions. Tandis que les nobles se rassemblaient pour effectuer la distribution, il l'attira à l'écart, non loin du groupe principal. Elle le dévisagea d'un air intrigué. « Qu'y a-t-il ? » Il jeta un regard vers le groupe d'aristocrates, des hommes et même quelques femmes qui attendaient que les élantriens viennent recevoir leur ration. Enfin, il se tourna vers sa reine. « Il risque de se passer quelque chose aujourd'hui. »« Quoi ? » ?»« Je vous ai dit que tous les élantriens n'étaient pas aussi dociles que ceux qu'on voit ici, vous vous rappelez ?»«
Oui ?» dit-elle lentement. « Qu'est-ce que vous préparez, esprit ? Quel jeu jouez-vous ? »
Il paraissait si franc. Mais elle redoutait toujours un mauvais tour.
« Eh bien, prenez garde, voilà tout. Que vos gardes restent à proximité. »
Elle fronça les sourcils. Elle lisait une émotion différente dans ses yeux. Une émotion nouvelle. La culpabilité. Tandis qu'il retournait vers la file et que son avertissement résonnait dans l'esprit de la princesse, celle-ci se félicita d'avoir su garder ses distances. Il lui cachait quelque chose d'important. En fine politicienne, elle resterait prudente. Mais l'événement funeste annoncé ne venait pas. Le temps qu'il débute la distribution, Esprit s'était un peu détendu. Sa reine songea qu'il avait fait tout un esclandre pour rien. C'est alors que les cris retentirent. Raoden jura et lâcha le sac en entendant hurler. C'était tout près, beaucoup trop près. Un instant plus tard, il vit Saolin déboucher d'une ruelle. Le soldat se défendait vaillamment contre quatre adversaires. Puis, l'un des sauvages abattit une massue sur ses jambes et il s'effondra. Soudain, les sbires de Shaor affluèrent. Ils jaillirent de toutes les rues, 20 fous dangereux. Les gardes, qui traînaient près du portail, réagirent trop tard. La meute se rua vers le groupe de nobles et la file des Lantriens. Éondel surgit. Par hasard, il avait décidé d'accompagner sa reine ce jour-là et, comme d'habitude, il portait son arme, au mépris des conventions. Cette prudence se révéla mère de sûreté. Les sbires de Shaor ne s'attendaient à aucune résistance et ils se gênèrent lorsqu'ils se retrouvèrent en face de l'épée du vieux général. Malgré les années, ils savaient encore se battre. D'entrée, il décapita deux sauvages d'un seul coup. Sa lame, bien aiguisée et ses muscles bien entraînés, tranchaient sans mal la chair des élantriens. Sa riposte ralentit les assaillants et laissa le temps à la garde de reprendre ses esprits et de se joindre à lui. Les nobles, constatant enfin le danger, se mirent à hurler. Par chance, ils se trouvaient tout près du portail et purent fuir sans obstacle. Bientôt, il ne restait là que Raoden et sa reine, qui s'observaient tandis que la mêlée faisait rage près d'eux. L'un des sbires de Shaor s'affala à leurs pieds, renversant une caisse de préparation pour bouillie d'avoine. La créature, le ventre ouvert jusqu'au cou, roula en battant des bras dans la pâte blanche qui se mélangea à la boue. Étendue sur le dos, les lèvres tremblantes, elle contempla le ciel.
« À manger !»
dit-elle du ton incantatoire d'un Noède.
« On ne voulait qu'à manger, à manger !»
Sa reine la regarda, recula d'un pas et leva vers Raoden des yeux qu'un sentiment de trahison faisait flamboyer.
« Vous les avez exclus de la distribution, n'est-ce pas ?»
Le jeune homme hocha la tête sans se chercher d'excuses.
« Oui. »
« Vous n'êtes qu'un tyran !» dit-elle d'une voix sifflante. « Qu'un despote sans cœur !»
Il se tourna pour regarder les sbires de Shaor. En un sens, elle avait raison.
« En effet !»
Elle recula encore et faillit tomber. Raoden tendait la main pour l'aider à recouvrer son équilibre quand il vit sur quoi elle avait trébuché. Un des sacs de nourriture qui contenait 5 fois la quantité normale et qu'il destinait aux Zoèdes. La princesse baissa les yeux, vit l'obstacle et crut comprendre.
« Dire que j'en venais à vous faire confiance !»
lança-t-elle avec amertume. Et elle courut vers le portail, protégée par la garde qui battait en retraite. Les sbires de Shaor, plutôt que de les poursuivre, se jetèrent sur le butin abandonné. Raoden s'écarta, mais les autres ne parurent même pas se rendre compte de sa présence, occupés qu'ils étaient à fourrer le plus de nourriture possible dans leur gueule de leurs mains sales. Il les regarda, pris d'une grande lassitude. C'était fini. Les nobles n'entreraient jamais plus dans Elantris. Au moins, aucun d'eux n'avait trouvé la mort. Puis, la mémoire lui revint. Saolin. Il traversa l'esplanade en courant et alla s'agenouiller auprès de son ami. Le vieux soldat fixait le ciel sans le voir, la tête ballottant de gauche et de droite. Il marmonnait.
« J'ai manqué à mon seigneur. J'ai manqué à Messire Esprit. J'ai manqué à mon seigneur. »
Raoden gémit et courba l'échine, désespéré.
« Qu'ai-je fait ?»
Il prit la tête du nouvel Oed dans son giron.
« Mais qu'ai-je donc fait ?»
Il resta là, perdu dans son chagrin, longtemps après que les sbires de Shaor eurent détalé, emportant les dernières miettes de nourriture. Enfin, un bruit incongru le tira de sa transe. Le portail d'Elantris se rouvrait.